Salut à tous, ici Laetitia du Nord. Bon, bah, après avoir entendu ton reportage, c'est décidé. Si Serge Dassault est réélu dimanche, je pars m'installer, m'exiler pendant un an à Corbeil-Essonnes, histoire de bien remplir les poches. Et puis après, je retourne dans le Nord et puis je m'achète mon petit appart. Je pense que c'est un bon projet. Franchement, votez tous pour le Serge Dassault. Hein. Franchement, c'est dommage que je loupe mon projet. Hein. Allez, salut à tous.
Bonjour. Je m'appelle Mehdi, je suis musulman. Et voilà, je voudrais réagir à ce que j'entends aujourd'hui sur un Palestinien qui a tué des enfants israéliens. Je trouve ça crapuleux de s'en prendre à des gosses, peu importe d'où ils viennent. En général, les enfants sont toujours manipulés par les adultes. Mais le monde s'indigne parce que oui, Israéliens sont morts. Et il y a quelques jours, 120 Palestiniens sont morts. Et nulle part, je n'ai senti la même indignation. Ça, c'est normal. Merci.
Bonjour l'équipe de là-bas, si j'y suis. Eh bien, aujourd'hui, j'ai honte. J'ai honte parce que la nouvelle Première Dame de France n'a pas voté. Oh, l'ex-future ex-Première Dame de France n'avait pas voté non plus il y a 10 mois. Elle, on sait pourquoi. Elle était bien placée pour connaître les incapacités de son mari par rapport au gouvernement de la France. Elle n'avait pas attendu 10 mois, elle, comme Léotard, pour mal dormir. Mais la deuxième première dame de France, pourquoi elle n'a pas été votée, elle? Je vous le donne en mille. Elle n'a pas voté parce qu'elle n'est pas inscrite sur les listes électorales. Et pourquoi elle n'est pas inscrite sur les listes électorales, la première dame de France? Elle habite bien en France, non? Elle y paie ses impôts aussi en France, non? Et son premier amant, là, son... Ce monsieur du mois de décembre, le Mickey d'Euro Disney, il lui a pas dit qu'elle avait jusqu'au 31 décembre pour s'inscrire sur les listes en tant que membre de la communauté européenne? Lui qui veut expliquer la morale aux enfants que l'on enseigne à l'école. Voilà, c'était Yveline de Corbeil-Essonnes et moi j'ai été votée.
Bonjour Daniel, bonjour toute l'équipe. Je viens d'entendre toutes les heures sur France Inter. Les personnes qui touchent le minimum vieillesse auront droit à une prime de 200 euros. Tu parles d'un cadeau si on vote pour Sarko. 16 euros par mois, 2 euros par semaine. Allez-y, votez. Merci, Sarko. Au revoir, c'était Marie-Claire de l'Odève.
Merci, chers auditeurs modestes et géniaux. Merci, mais de grâce, arrêtez d'appeler la mairie de Corbeil-Essonnes pour demander des sous. Il paraît que c'est un assaut de coups de téléphone à la mairie pour dire, voilà, nous, on veut des sous, on veut que monsieur Dassault nous donne de l'argent. Arrêtez, 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 je vous en prie, je suis pas sûr que vous soyez quand même tous satisfaits. Clientélisme a des limites. Aujourd'hui, nous retrouvons l'équipe du Monde Diplomatique autour du numéro du mois de mars. Vous savez que chaque mois, avec l'équipe du Monde Diplo, eh bien, on parle de ce qu'il y a dedans et on parle de ce qu'il n'y a pas dedans. Là, par exemple, on va parler d'Ingrid Betancourt. Eh bien, il n'en est pas question dans le numéro de ce mois-ci. Et pourtant, nous en parlerons. Nous parlerons un peu des élections. Nous allons parler du Code du travail. Nous allons parler de l'Irak, selon Alain Grèche. Ça va mieux en Irak, un peu étonnant. Anne-Cécile Robert parlera du Darfour et du Tchad. François Denor nous dira à quel moment la droite française est devenue libérale. Elle ne l'était pas forcément jusqu'au début des années 80. Et puis Serge Halimi nous parlera du traité de Lisbonne, d'une démocratie simplifiée. Autre chose avant de commencer, Normand Baillargeon. Vous souvenez, Normand Baillargeon, c'est l'auteur du petit traité de défense intellectuelle. Petit cours d'autodéfense intellectuelle. Eh bien, il sera un peu partout en France ces jours prochains. Et pourquoi donc? Eh bien, pour des rencontres autour de Chomsky et compagnie, le fameux film de là-bas, si j'y suis, et des Mutins de Pangée que nous sommes en train de finir. De larges extraits de ce film seront présentés avec des commentaires et des interventions de Normand Baillargeon autour de trois thèmes, la fabrique du consentement, Chomsky libertaire et le progrès humain. Trois thèmes donc qui figurent dans le film et dont nous débattrons. Je serai à certaines de ces soirées, mais vous pouvez déjà vous dire que le jeudi 13 mars à 20h30, c'est à l'Utopia de Bordeaux. Vendredi 14 mars, c'est à Toulouse. Le samedi 15 mars, c'est à Tournefeuille, près de Toulouse. Et le lundi 17 mars, c'est à l'Espace Saint-Michel à Paris, Place Saint-Michel. Je vous redonnerai tout ça. Il y a d'autres dates. Vous pouvez consulter ce petit calendrier, cette petite tournée de Normand Baillargeon autour du film sur le site labas.org. Là-bas.org. Je vous en reparlerai à la fin de cette émission. Encore une fois, de grâce, arrêtez d'assaillir Monsieur Dassault. Il ne peut pas donner de sous à tout le monde. Il ne peut pas acheter la terre entière. Donc, on retrouve l'équipe du Monde Diplomatique. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Bonjour, je rappelle et je réitère que contrairement à ce que j'entends dans l'émission, Monsieur Serge Dassault ne dépense pas son argent. Monsieur Serge Dassault a gagné cet argent en vendant à l'État et à l'État uniquement des armements, des avions, des missiles. Et donc, lui qui fustige tant le service public, il ne vit que de ses subsides. Il aimerait, ce serait quand même intéressant que vous l'évoquiez, parce que sinon votre émission tombe dans le lénifiant. Merci d'avoir pris mon appel, c'est Albert à Gagny. Au revoir.
Bonjour Daniel, bonjour à tous. On parle beaucoup de retraités et de retraite en ce moment, et moi je voulais vous parler d'un retraité marocain. Il s'appelle Mohamed Mechti, il vit dans une chambre de 9 mètres carrés dans un foyer Sonacoutra de Bordeaux. Il a 89 ans, il a participé à la libération de la France pendant la Seconde Guerre mondiale, il a fait la campagne de Tunisie, la campagne d'Italie, il était présent à Monte Cassino. Il a participé au débarquement en Provence et par la suite, il a aussi été mobilisé pour l'Indochine. 15 ans de service et une retraite de 79,20 € par mois, plus 279,68 € chaque semestre. Les centimes ici sont importants quand même. Voilà.
C'est Daniel Mermet, c'est là-bas si j'y suis, avec le Monde Diplomatique, Serge Halimi, François Denor, Anne-Cécile Robert, Alain Gray, Gérard Filoche et Maurice Lemoine. Bon, alors on attaque donc ce numéro du mois de mars et on attaque justement avec l'édito, signé Serge Halimi, sur la démocratie simplifiée. Voilà, ça commence bien, hein. On simplifie, on rend les choses plus claires. Et évidemment, cette simplification, c'est autour du traité de Lisbonne, qui était auparavant le traité de constitution européenne, auquel, si on se souvient bien, un certain 29 mai 2005, les Français, dans une confortable majorité, ont dit non. Et il a été représenté d'une autre façon. Et puis voilà, ça s'est passé très bien, sans problème, avec le ralliement de la gauche. Mais on n'est pas le seul pays où les choses se passent comme ça, avec des peuples qui votent mal et qu'il serait temps de changer.
Oui, voilà. Ce qui m'a semblé intéressant, c'était d'évoquer ce qui se passait dans d'autres pays européens, parce que naturellement, le cas français est assez connu. Mais la semaine dernière, par exemple, le Parlement britannique a décidé de ne pas organiser de référendum au sujet du traité de Lisbonne et de procéder par voie parlementaire. La Chambre des communes a d'ailleurs voté la ratification en janvier 2008. Or, en 2005, au Royaume-Uni comme dans d'autres pays, l'ensemble des partis, le parti conservateur, le parti travailliste et le parti libéral-démocrate, s'étaient engagés à ce qu'il y ait un référendum. Quel était leur raisonnement à l'époque ? Leur raisonnement à l'époque était le suivant, on a déjà eu un élargissement, passant de 15 à 25, sans qu'il y ait une consultation populaire, on sent bien que ça provoque un mécontentement, alors on dit au peuple britannique, avant une élection législative, celle de 2005, on lui dit, quel que soit le résultat, en tout cas, s'il y a une nouvelle constitution européenne, vous serez consultés. Et puis, donc, nouvelle élection législative, le Parti travailliste est confirmé, et l'une des premières décisions du successeur de Tony Blair, Gordon Brown, est qu'il n'y aura pas de référendum, parce qu'on explique que le traité constitutionnel, c'était une chose, et le traité simplifié, c'en est une autre, et ça n'exige pas de référendum. Bon, il faut rappeler ici que le 1er juillet prochain, la France va exercer la présidence de l'Union européenne pour 6 mois, et que le 1er janvier 2009, le nouveau projet constitutionnel devrait entrer en vigueur si tous les États membres l'ont ratifié. Donc il faut que d'ici le 1er janvier 2009, les 27 États européens l'aient ratifié, et qu'il suffirait qu'un seul État ne ratifie pas le traité de Lisbonne pour que celui-ci n'entre pas en vigueur. Alors comment faire pour obtenir la ratification par 27 États d'un traité qui a déjà été rejeté par un certain nombre de pays, notamment la France, vous l'avez rappelé, par 55% des voix, mais aussi la Hollande, quelques jours plus tard, par 62% des voix? Eh bien, c'est très simple. On fait comme au Royaume-Uni, on ne les consulte pas. On ne demandera pas au peuple leur avis pour être sûr que cette mécanique ne sera pas en quelque sorte enrayée par un grain de sable qui serait un peuple se prononçant contre le traité de Lisbonne. Alors, dans le cas de la France, on se souvient peut-être qu'il y a un peu moins de 2 ans, alors qu'il était en campagne électorale, Nicolas Sarkozy avait déclaré, je le cite, « Être un Européen conséquent et un homme politique responsable, c'est ne pas faire après le non français à la Constitution européenne comme s'il ne s'était rien passé. Les Français nous ont adressé un message, je veux en tenir compte. » Alors on voit comment il en a tenu compte. Il a été élu président de la République et comme dans le cadre de sa campagne, il avait annoncé qu'il soumettrait un nouveau texte, mais pas à référendum, à la ratification parlementaire, il a estimé que cette annonce-là suffisait, même si, au moment de l'élection présidentielle, tous les autres candidats, qui ont obtenu près de 70% des voix au premier tour, s'étaient engagés, s'il y avait un nouveau traité, à ce qu'il y ait un référendum. Donc, dans le cas de la France, on contourne la volonté populaire, il y a quelques semaines, réunion du Congrès à Versailles, et 75% des parlementaires ont voté en faveur de la ratification d'un texte qui était plus ou moins le même que celui que 55% des Français avaient rejeté. Alors, on voit ce qui s'est passé au Royaume-Uni, on voit ce qui s'est passé en France, même cas de figure aux Pays-Bas. Donc aux Pays-Bas, on a vu, les citoyens hollandais avaient rejeté le traité en janvier 2005 par 62% des voix. Alors là encore, pour ne pas risquer de les consulter, puisque apparemment ils ne répondent pas comme il faut, eh bien c'est au Parlement qu'il reviendra de ratifier la Constitution européenne. Royaume-Uni, France, Pays-Bas, même cas de figure au Portugal. Au Portugal, lors des élections législatives de 2005, le Parti socialiste s'était engagé à soumettre à référendum un traité européen. Le Premier ministre José Socrates a fait machine arrière en prétextant, comme Sarkozy, comme Brown, comme les socialistes hollandais, que, je cite, « les circonstances ont complètement changé, c'est un traité différent ». Alors on nous dit que c'est un traité différent, c'est un traité simplifié. Lorsqu'il a fait sa grande allocution radiodiffusée, à laquelle personne n'a prêté le moindre intérêt, le président de la République, Nicolas Sarkozy, a employé 5 fois ce terme de simplifié, traité simplifié. Bon, alors il faut rappeler quand même que ce traité est très simplifié, mais tout simplifié qu'il est, il comporte 287 pages, 356 modifications au traité antérieur, 13 protocoles, 65 déclarations et une annexe. En somme, si vous n'êtes pas professeur de droit européen, et encore, vous avez de grandes chances de ne rien y comprendre. Alors on dit qu'il est simplifié, qu'il est différent de celui que les Français ont rejeté. Le seul problème, c'est que s'il y a quelqu'un qui connaît bien le texte que les Français ont rejeté, c'est celui qui a été un peu son architecte, Valéry Giscard d'Estaing. Or, il a expliqué lui-même que dans le traité de Lisbonne, rédigé exclusivement à partir du projet de traité constitutionnel rejeté en 2005, je le cite, « les outils sont exactement les mêmes, seul l'ordre a été changé dans la boîte à outils ». Même constat d'ailleurs au Royaume-Uni, je cite, « il n'y a pas de différence substantielle entre les deux textes », a observé la Commission des affaires étrangères de la Chambre des communes, qui est pourtant sous le contrôle du parti travailliste. Bilan des courses, si on peut dire, seuls les Irlandais auront droit en mai ou en juin à un référendum, parce que là-bas, il est requis en cas de traité du type du traité européen. Alors ça pose 2 questions. La première question, c'est la question démocratique. Parce que dans son allocution du 10 février, à laquelle personne n'a prêté le moindre intérêt, Nicolas Sarkozy a eu cette phrase que j'ai trouvée assez intéressante. Je le cite, « Pour convaincre tous nos partenaires d'accepter ce nouveau traité simplifié que nous leur proposions, il fallait qu'en cas d'accord, nous nous engagions à le faire approuver par voie parlementaire. Si cette condition n'avait pas été remplie, aucun accord n'aurait été possible. » C'est une phrase intéressante parce qu'elle signifie que le président de la République a dû s'engager auprès de nos partenaires européens à ne pas consulter le peuple français. Et des pressions, on le sait, du même ordre ont été exercées par les Allemands et par les Luxembourgeois auprès des Portugais. Attention, pas de référendum chez vous. Bon. Donc c'est une question démocratique, mais c'est aussi une question sociale, puisque les parlementaires qui ont contredit la décision du suffrage universel, en France, mais aussi probablement en Hollande, appartiennent de plus en plus à des catégories sociales privilégiées, alors que lorsqu'il y a eu des référendums, les catégories populaires se sont, elles, massivement prononcées contre le traité constitutionnel. Ainsi donc, on a une Europe qui va être complètement dépourvue d'une légitimité démocratique, qui affrontera la crise économique et financière qu'on connaît, et cette situation-là conforte un certain nombre de critiques de l'Union européenne dans l'idée que l'Europe, jusqu'à présent, ne peut pas et n'a pas pu se construire sans le recours à des spécialistes, à des notables, à des élites, et qu'on essaie presque systématiquement d'écarter les peuples de cette construction.
Et ça renvoie au dilemme de François Mitterrand, qui s'interrogeait en 1983...
Oui, en 1983, Mitterrand disait qu'il avait fallu choisir entre l'Europe et le social. Maintenant, on peut se demander si on peut construire l'Europe en respectant un certain nombre de principes démocratiques. Apparemment, on cherche à les contourner dès que possible, puisque c'est un peu toujours la même règle. Il faut que les peuples répondent à la question comme on veut qu'ils répondent. Et s'ils répondent pas comme on veut qu'ils répondent, eh ben, soit on les consulte une nouvelle fois, soit on décide que
de ne pas les consulter.
Article 329.
Si un État membre est l'objet d'une attaque terroriste ou la victime d'une catastrophe naturelle ou d'origine humaine, les autres États membres lui portent assistance à la demande de ses autorités politiques.
Vous aurez à vous prononcer par référendum sur la Constitution européenne.
Le sceau du Congrès fait foi. Le Parlement a modifié un alinéa de la Constitution. Le traité de Lisbonne sera donc adopté par les députés et les sénateurs.
Ceci est un message du ministère délégué aux Affaires européennes.
On continue avec le diplôme de ce mois de mars, mais on n'a pas parlé quand même des élections municipales. Alors, est-ce que vous avez envie de réagir, les uns et les autres? Ça vous dit rien, ça vous laisse. Gérard Filoche, qui vient de nous rejoindre, là, a bien quelque chose à dire sur les élections.
47,5% pour la gauche, 40% pour la droite, j'ai bien fait les comptes.
C'est 40 ou 45% pour la droite?
Je crois 47,5 au total, j'ai pris le Parisien ce matin, et 40% pour la droite. Je vois qu'ils mettent aussi 4,5% pour l'autre secteur de la droite qui s'appelle Modem. Et puis l'extrême gauche va de 2% à 13,5% là où elle se présente. Ce qui est quand même une conclusion, c'est que on a toujours une France de gauche comme elle était entre 2003 et 2006 malgré un président de droite. Il y a eu un avatar l'année dernière. Et deuxième chose, c'est que s'il y avait des choix à faire pour la gauche, ce n'est pas comme propose Ségolène Royal de s'allier avec l'autre secteur de la droite qui s'appelle Modem. Je sais qu'elle appelle à ce que ça se passe partout. Si j'avais quelque chose à appeler, c'est que ça se passe le moins possible, sinon nulle part. Et que s'il y a un choix, c'est plutôt l'unité de la gauche que l'unité avec un secteur de la droite. Le Modem est un secteur de la droite qui, même sur des points comme les retraites ou par exemple la dette, est plus à droite que Sarkozy. Je ne comprends pas qu'on y fasse une préférence, ni même qu'on lui ouvre un espace.
Bon, alors justement, tiens Gérard Filoche, on va parler du travail et du code du travail, parce que c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Hein. Vous n'êtes pas là pour faire de la politique. Il y a le Filoche militant, et puis il y a le Filoche inspecteur du travail, qui très souvent sont le même.
Je l'ai déjà dit 1000 fois, si j'avais pas été militant, mais été inspecteur du travail, l'inspection du travail m'aurait fait devenir militant.
Alors parlons.
Quiconque rentre dans les entreprises reçoit une poussée d'exploitation égale au nombre de gens rencontrés.
Alors, évolution du code du travail. Destruction du code du travail.
Hélas, la date fatidique est le 1er mai 2008. C'est devant nous maintenant, dans un mois et demi. Le 1er mai 2008 va s'abattre sur la France un nouveau code du travail passé à l'acide des exigences néolibérales du MEDEF. Et ensuite, ils vont faire d'autres lois qu'ils annoncent, dites de modernisation sociale. Ils appellent toujours ça quand ils régressent. Ils disent qu'ils modernisent. Ils disent qu'ils simplifient quand ils complexifient. Et ils disent que c'est pour l'intérêt de l'emploi quand ils suppriment de l'emploi et rendent plus difficile aux salariés de vendre correctement leur force de travail. Et c'est le 1er mai 2008 qu'un nouveau code, on attend les 3000 décrets, c'est-à-dire toute la partie réglementaire, va s'abattre sur les salariés français sans qu'il y ait eu beaucoup de discussions dans ce pays.
Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé?
2 ans d'écriture dans l'ombre, technocratique, par des gens dont l'un avoue aujourd'hui que il faudra des mois, voire des années, pour que le nouveau code du travail révèle tous ses secrets. Alors forcément, il sait bien comment il a redécoupé un code qui avait 273 subdivisions, il l'a redécoupé en 1800 subdivisions. Un code qui avait un peu plus de 1100 lois, il en a fait 3850 lois. Ils ont supprimé 500 lois qu'ils ont transformées en décrets. Et ils ont supprimé au passage des centaines et des centaines de droits pour chacun des salariés qui ne le savent pas encore, mais qui vont le découvrir quand ça va se mettre progressivement en place.
Pourquoi si peu de résistance finalement?
D'abord, ça s'est présenté de façon sournoise, discrète, une commission de rédacteurs, sous un couvert dit de recodification. On a essayé de faire croire aux gens que c'était à droit constant. Constant, ça veut dire qu'on vous change un peu la toilette du texte, mais on n'y change rien. Alors, ça a masqué les choses. Et en vérité, ils ont changé beaucoup de choses. Ils ont imposé, par exemple, que en matière d'hygiène sécurité, il y ait autant de devoirs pour les salariés que pour les employeurs. Ils ont chassé l'apprentissage du contrat de travail. C'est maintenant des stagiaires de la formation professionnelle. Ils ont évacué du code du travail les ouvriers écoles, les assistants maternels, les mineurs, les enseignants de l'éducation privée, c'est-à-dire 2-3 millions probablement de salariés qui se trouvent, avec ceux de l'énergie et du transport, expulsés vers d'autres codes spécifiques. Et ils ont enlevé des chiffrages très importants. Les indemnités légales de licenciement sont reportées au décret, de la même façon que le port maximum de charges qu'on peut porter, ou les seuils sociaux de 10 ou 11 pour les délégués du personnel, ou 50 pour les comités d'entreprise. Alors c'est toute une somme de changements qui, quand ils s'accumulent, quand ils vont entrer en vigueur, vont faire qu'il y aura moins de syndicats, moins de juges, moins de prud'hommes, moins d'inspection du travail.
Mais les syndicats sont consultés sur ces modifications?
Oui, bien sûr. Ils ont été associés au début de la procédure pendant environ un an. Et au bout d'un an, ils avaient presque tous marre. Parce qu'on leur donnait des textes la veille de la réunion mensuelle qui se tenait. Ils n'avaient pas le temps de les consulter. Ils faisaient des remarques au cours de la réunion. Et les remarques n'étaient même pas prises en compte dans la réunion suivante. Ce qui fait que les 5 syndicats représentatifs, CGT, CFDT, FO, CGC et CFTC, les 5 officiellement représentatifs au terme de l'arrêté de 66, parce qu'en fait il y en a 8 ou 9, il faudrait quand même rajouter la FSU, l'UNSA et puis Sud qui n'étaient pas dans la commission. Mais les 5 syndicats représentatifs ont tous pris une position contre la recodification. Le gouvernement Chirac à l'époque l'a imposé en pleine campagne présidentielle dans un silence médiatique général.
Gérard, est-ce qu'on peut évoquer en quelques mots comment a été écrit ce code du travail, de quel résultat il est l'histoire?
Et c'est 130 ans d'histoire. C'est le docteur Villermé, au début, en 1840, faisait une enquête sur la condition physique au travail des femmes et des enfants. Et il a découvert évidemment que c'était des catastrophes. Et il travaillait 14 heures par jour. Et c'est ce qui a petit à petit amené à une baisse de la durée du travail. Petit à petit, enfin, il a fallu 60 ans pour qu'on arrive à une journée de 10 heures. Mais ça a été le début du code du travail. C'était autour de la réduction du temps de travail. À l'époque, on a dit, il faut pas travailler plus, faut travailler moins, quoi. C'est 130 ans d'histoire. Et maintenant, le nouveau code, c'est travailler plus, sans précaution pour votre santé, votre hygiène, votre sécurité, votre vie de famille. Le code, il a démarré vraiment 1892 avec l'inspection du travail, qui a été créée à ce moment-là pour le faire respecter. Parce qu'avant, il n'y avait pas de moyens. En 1906, avec le ministère du Travail, qui est né à cette époque-là. Et en 1910, vous aviez à peu près 3 lois, 80 décrets et 110 inspecteurs du travail. Puis ça s'est enrichi grâce aux grèves, aux luttes pendant tout le siècle dernier. C'est un code, j'ai l'habitude de le dire, qui est fait de sueur, de sang, de larmes. Il a été, chaque ligne a coûté des milliers, des centaines de milliers d'efforts, de combats. Et c'est le cas au Front Populaire, c'est le cas à la Libération, c'est le cas en mai 68, c'est le cas quand la gauche revient au pouvoir en 1981. Et chaque fois, il y a des bons en avant, pas toujours positifs, extraordinaires, mais significatifs, qui pèsent dans la vie quotidienne et intime des salariés concernés. Et alors, aujourd'hui, il n'y a pas 3 millions de salariés comme au début du XXe siècle. Il y en a 16 millions. Aujourd'hui, il n'y a pas 50% de salariés dans la vie active, il y en a 91%. C'est-à-dire que le salariat domine aujourd'hui dans toute la production de ce pays. C'est lui qui produit toutes les richesses. Et il n'en reçoit pas la part qu'il mérite en échange. Et évidemment, le Code du travail a pris, avec cette histoire-là, une importance décisive. Quand vous touchez deux lignes du Code du travail, vous touchez 16 millions de salariés d'un coup. D'où le but de l'opération, c'est-à-dire d'abord écarter quelques millions de salariés de cette marche liée à l'histoire du Code. Et puis, deuxièmement, essayer de faire que on leur donne moins de prise, moins de défense, moins de syndicats, moins de juges, moins de prud'hommes, moins d'inspections. C'est-à-dire moins de moyens pour bien vendre leur force de travail, pour avoir de bons salaires.
Pourquoi si peu de médiatisation sur quelque chose qui concerne tant de monde ?
Ah, je me suis beaucoup interrogé. Là, il faut m'aider à répondre parce que... j'ai fait 2 ans de lutte, j'ai fait un livre en novembre 2006. Je peux pas dire que j'ai ménagé ma peine en nombre de mails, de lettres, d'articles, de démarches, etc. Même auprès des... Bon, alors il y a l'aspect technique. Ça paraît difficile, en fait, c'est pourtant simple. Est-ce que vous vendez bien ou mal votre force de travail? Alors ça se présentait sous un mensonge, je l'ai dit. Ils disaient que c'était à droit constant. Et puis après, ils ont organisé le silence. Ça, c'est vrai. Avec une commission technocratique. C'est pas passé par le Parlement.
Ils ont organisé, mais qui?
Mais les responsables sont très clairs. C'est toute la droite, le cœur de la droite aujourd'hui au pouvoir, de Larcher, Villepin et Sarkozy. Mais ils sont passés le relais, mais ils ont fait la même chose, aidés par le patronat. Cherchez pas.
Et la gauche, là-dedans, n'a rien fait.
Regardez Denis Gauthier-Sauvignac. Regardez Jacques Barthélémy, qui est l'avocat le plus proche du MEDEF et qui a fait le travail au sein de la commission. Regardez, c'est très simple. Jean-Denis Combrexel, directeur des relations du travail, dînait selon Légion sociale chaque mois avec Denis Gauthier-Sauvignac. Cherchez pas. Le cœur de la décision et de ce travail-là était là. Et ils l'ont fait masquer, comme l'orchestre noir était masqué en matière d'argent sale.
Bon, c'est gay. Des commentaires des uns et des autres? Des autres, non? Anne-Cécile, Robert?
On voit là aussi, un petit peu de la même manière que ce que décrivait Serge Halimi tout à l'heure pour le traité européen, qu'il y a un problème de représentation politique dans ce pays. Parce que les grands partis de gauche n'ont pas non plus fait une campagne phénoménale pour défendre le code du travail. On les a vus sur des sujets très importants comme les tests ADN, etc., qu'il fallait effectivement dénoncer. Mais sur le code du travail, on n'a pas vu les grands partis de gauche mener des batailles dans la presse ou au Parlement. Donc on se retrouve à nouveau confronté au fait que la réalité sociale de la France, comme du reste des pays occidentaux, n'est plus représentée par le système politique. Et c'est ce problème-là, il va bien falloir s'y attaquer un jour.
Ça nous fait un enchaînement avec le papier de François Denord dans le Diplo de ce mois de mars sur le... Comment la droite française est-elle devenue libérale? On s'imagine que la droite, il y a eu une droite qui ne l'était pas. La droite gaulliste des années 60, avec un De Gaulle qui disait la politique ne se fait pas à la corbeille. Et il y avait un certain encadrement de l'économie, de la vie économique. Et puis on pense que le libéralisme est arrivé dans les années 80, avec le fameux tournant de la rigueur en 83. Mais ça, c'était l'affaire de la gauche. Or, vous dites, mais non, la droite est passée, est devenue libérale.
Bah oui, on va bientôt fêter le 25e anniversaire du tournant de la rigueur, mais à la fin des années 70, même la droite avait encore du chemin à parcourir pour devenir libérale. Alors ça tient essentiellement à la permanence de la tradition gaulliste, et au fait qu'il y a toujours eu une tradition interventionniste à droite, avec des gaullistes parfois planificateurs, et même certains plutôt progressistes. Bref, toute la droite, à la fin des années 70, n'est pas acquise encore aux idées libérales. Alors, une première rupture avait été un petit peu les années Giscard, où pour la première fois, on avait décidé de privilégier une logique de politique de long terme, sur le court terme, et de lutter davantage contre l'inflation que contre le chômage. Mais à l'époque, la droite gaulliste, et en particulier le RPR, qui a fondé Chirac en 76, avait âprement lutté contre cette politique et dénoncé ce qui était pour eux une politique néolibérale, un retour au laisser-faire. Alors je vais juste me citer une petite phrase de Jacques Chirac, comme ça en 76, c'est « Ce n'est pas je ne sais quel libéralisme, je ne sais quel laisser-aller au nom de je ne sais quel principe qui avait cours au 19e siècle, qui nous permettront de surmonter nos difficultés ». Et effectivement, l'expérience Giscard a connu un échec économique assez retentissant. Et c'est en fait l'accession de la gauche au pouvoir qui va pousser la droite, y compris gaulliste, à se reconstruire politiquement autour d'un projet libéral. Alors aujourd'hui, on parle beaucoup de rupture, et beaucoup depuis les élections présidentielles, mais à l'époque, la mode, c'est la double rupture. C'est en tout cas le titre d'un livre d'Alain Juppé qui avait préfacé Jacques Chirac en 83. La double rupture, c'était ni socialisme, ni giscardisme. Et la droite était appelée à se débarrasser de ses complexes intellectuels vis-à-vis de la gauche. Alors bien sûr, faut se souvenir un peu du contexte. Entre 80 et 83, c'est les nationalisations, les lois Auroux, la loi Quilloux, la réduction du temps de travail, etc. Et pour la première fois depuis longtemps, des patrons de PME, des artisans et des commerçants qui vont manifester fin 82 dans les rues de Paris. Alors la droite, elle va leur promettre un retour au libéralisme en prenant exemple sur les États-Unis de Margaret Thatcher, les États-Unis et la Grande-Bretagne. Et puis, la droite va donc promettre qu'une fois revenue au pouvoir, elle dénationalisera, déréglementera, désétatisera. C'est ce qu'elle commencera à faire un peu pendant la première cohabitation de 86-88.
Aujourd'hui, la droite est libérale ?
Je pense qu'aujourd'hui, la droite, plus que libérale, est néolibérale. Si on entend par là l'idée que la droite a un mode de gouvernement en faveur d'une économie de marché et a une politique interventionniste, mais en faveur du marché. Alors cette politique, elle passe d'abord par une forme de désengagement de l'État dans l'activité économique, mais parallèlement avec la mise en place de dispositifs qui visent à construire une société de marché. Alors ces dispositifs, ça peut être responsabiliser les individus en introduisant une franchise professionnelle. Ça peut être introduire la concurrence dans des secteurs qui échappaient plus ou moins jusqu'à présent, comme l'université. Bref, on a une politique qui est d'un côté de désengagement de l'État et de l'autre de construction de dispositifs pour fabriquer une société de marché.
Quelle différence avec la gauche institutionnelle ?
Je pense que la gauche institutionnelle a, elle aussi, renoncé depuis les années 80 à une politique alternative à celle de l'économie de marché. Peut-être que elle assume moins les références libérales que la droite aujourd'hui et qu'elle maintiendra un filet social supérieur à ce que ferait l'État actuel. Mais en même temps, le gouvernement actuel ne peut pas se permettre de renoncer à tout filet social, sans quoi les réformes engagées amèneraient forcément à une explosion sociale.
Donc ça fait bonnet blanc ce que vous nous dites là, non ?
Blanc bonnet et bonnet blanc, peut-être pas tout à fait. Il faut voir que chaque famille politique n'est pas unitairement, se définit pas autour d'un programme unique, mais il est certain que les forces dominantes de droite et de gauche sont toutes les deux attachées au cadre d'une économie de marché.
Gérard Filoche, une brève réaction, non ?
Non, c'est pas blanc bonnet, pas blanc. C'est pas blanc.
Je m'en doutais.
Même malgré la politique des dirigeants de la gauche que tu résumes très bien, je partage ce que tu viens de dire concernant les dirigeants de la gauche et l'idéologie, ce qu'ils véhiculent, ce qu'ils écrivent, il n'y a pas de souci à ce sujet. Mais la gauche, c'est pas que ses dirigeants, et elle a une histoire, elle a une genèse, elle a des liens, elle a des implantations sociales, elle a des rapports avec des élus, avec des syndicats, avec des associations et avec un mouvement social. Et ça, elle ne peut pas échapper à cela. Et c'est grâce au fait qu'elle ait ces liens qu'on peut espérer pouvoir obtenir autre chose que les propos qu'elle tient. Et on ne peut l'obtenir que d'abord quand on bat la droite. Parce que sinon, de toute façon, on n'a pas le champ ouvert pour cela.
Des réactions des uns et des autres, Serge Halimi ?
Enfin, il y a un certain nombre de contre-exemples historiques auxquels on peut penser. Le tournant de la rigueur dont vient de parler François Denord a été lancé en mars 1983 par un gouvernement de gauche. Si je ne m'abuse, le Premier ministre à l'époque était Pierre Mauroy. Un an plus tard, ça va être Laurent Fabius. L'acte unique européen, ça va être un gouvernement de gauche. Bon, les gouvernements de gauche de ces, disons, 20 dernières années ne se sont pas beaucoup distingués des politiques néolibérales que vient de définir François Denord. Alors, il est vrai qu'électoralement, ça n'est pas la même sociologie, encore que, on sait quand même que la sociologie du Parti Socialiste est une sociologie de plus en plus bourgeoise, et que la droite, parfois, a réussi à attirer à elle un certain nombre d'éléments populaires. Mais si on tient cette donnée un peu à l'écart, si on regarde ce que sont les politiques, bon, il est certain que la droite procède en général avec plus de brutalité que la gauche, mais les itinéraires ne sont pas fondamentalement différents. D'ailleurs, si je peux ajouter, il y a quand même une dimension un peu symbolique lorsqu'on voit que le président, le directeur de l'Organisation mondiale du commerce, organisation du libéralisme international s'il en est, est Pascal Lamy, un socialiste, et que le directeur général du Fonds monétaire international, qui n'est pas non plus une organisation où beaucoup de gauchistes opèrent, en tout cas s'ils le font, c'est bien masqué, est Dominique Strauss-Kahn, dirigeant du Parti Socialiste.
Là-dessus, Serge a tout à fait raison. Avec la gauche, on n'a pas tout ce qu'on veut. Avec la droite, on a tout ce qu'on veut pas. Mais c'est quand même avec la gauche qu'on a eu les 35 heures, la retraite à 60 ans, les 39 heures, des droits qui n'ont pas été acquis dans d'autres circonstances et que la droite, elle, cherche à remettre en cause. Il y a une différence. All right, children, here's a merry little song. You sing along now. If we cannot find Osama Bombi Rock. If the markets hurt your mama Bombi Rock. Saudi and the bank expect your Audi and the TV shows are bawdy Bombi Rock.
Ok, on continue. On va parler de l'Irak avec Alain Grech qui nous dit qu'en fait ça s'arrange. Hein? Finalement, oui, George W. Bush a eu des égarements, il a un petit peu menti. Vous rappelez ce résultat d'une enquête qui, selon laquelle George Bush et les siens, enfin et son administration, auraient menti 935 fois en 2 ans à propos de publiquement, bien évidemment, dans le privé ça, on n'en sait rien. Mais 935 fois publiquement pour ce qui concerne l'Irak. Mais vous nous dites quand même, non mais sérieusement, vous nous dites que ça s'arrange un peu. Ce serait un élément important par rapport aux élections américaines de novembre.
Le point de départ de l'article, c'était effectivement le fait que aux États-Unis. Maintenant, une partie de la presse, une partie des responsables politiques, y compris démocrates, affirment qu'il y a quelque chose qui se passe en Irak, que la situation n'est pas du tout la même que celle qui était il y a un an. Et effectivement, cette appréciation, qui se traduit d'ailleurs par le fait que l'Irak, sans être absent de la campagne électorale américaine, n'occupe plus la place centrale, s'appuie sur des faits réels, c'est-à-dire la diminution du nombre de morts américains, qui est pour l'opinion américaine la seule chose qui compte vraiment, mais aussi la diminution de morts irakiens, même si les chiffres restent très élevés. Et donc, on ne peut pas simplement dire c'est de la propagande, il faut essayer de comprendre pourquoi on est arrivé à cette situation. Alors, il y a différents éléments d'explication. D'abord, c'est qu'effectivement, en concentrant 30 000 hommes supplémentaires à Bagdad, je veux dire, ça donne effectivement des moyens plus grands à l'armée américaine, et je rappelle d'ailleurs que en 1957, la France a gagné militairement la bataille d'Alger, et qu'elle a quand même perdu la guerre. Donc, effectivement, plus on met de troupes, plus, effectivement, on a des moyens en tous les cas, de contrôler la situation. Et puis, surtout, ça s'appuie, enfin, la diminution des victimes, ça s'appuie sur deux faits. Un, qui est le fait que la principale organisation chiite a décidé, pour des raisons particulières, d'arrêter depuis un an a proclamé un cessez-le-feu contre les Américains, un cessez-le-feu dans ses actions contre les Américains, et surtout que depuis un an, les Américains ont développé une nouvelle stratégie qui est de trouver des alliés dans la communauté sunnite, qui représente en gros 20 à 30% de la population, qui était l'élément central de la résistance anti-américaine. Donc, les États-Unis ont créé une alliance avec un certain nombre de groupes insurgés contre Al-Qaïda. Contre les groupes liés à Al-Qaïda. Pourquoi ce retournement ? Il y a là aussi plusieurs explications. Les groupes insurgés sunnites ont d'abord craignent le gouvernement irakien, qui est à majorité chiite. Et comme vous savez, dans la dernière période, il y a eu beaucoup d'affrontements entre des milices sunnites et chiites. Donc un rapprochement avec les Américains, des groupes sunnites, leur permet de faire contrepoids aux chiites. Et puis deuxièmement, parce que les méthodes d'Al-Qaïda, composées pour beaucoup de combattants étrangers qui viennent des différents pays arabes, étaient honnies par la population, et donc y compris par la population sunnite, et que donc les groupes insurgés voulaient se débarrasser d'Al-Qaïda. Et ils ont en partie réussi. Donc il y a effectivement sur le terrain moins de morts américains, moins de morts irakiens, moins d'attentats, etc. Mais en même temps, je veux dire, il faut rappeler à la fois le fait que cette guerre entamée depuis 5 ans a été une guerre qui a coûté énormément au peuple irakien. Alors, ça varie entre 200 000 et 1 million de victimes. civils, enfin, oui, civils tués dans les combats. C'est énorme, je veux dire, que le pays est démantelé. Et surtout que...
4 millions de déplacés.
4 millions de réfugiés et personnes déplacées. Le fait qu'il n'y a aucune reconstruction économique, c'est-à-dire le pays produit moins de pétrole qu'il ne produisait avant l'invasion américaine, alors que les Américains espéraient que l'Irak deviendrait un élément exportateur de pétrole important. Et surtout, le pays, une des raisons aussi de la diminution de morts, c'est qu'il y a une épuration ethnique qui fait que de plus en plus, notamment à Bagdad, il y a des quartiers sunnites ou des quartiers chiites, que les chiites qui habitent dans les quartiers sunnites s'en vont et réciproquement. Donc effectivement, il y a moins de friction puisque c'est des quartiers homogènes. Mais en même temps, il n'y a pas de gouvernement central qui est une autorité, et c'est ça le pire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une autorité aujourd'hui qui est capable d'unir les Irakiens. Et puis on paye aussi une politique américaine qui, depuis 2003, a été de définir les Irakiens uniquement à partir de leurs origines religieuses et ethniques. C'est-à-dire on était sunnites, chiites ou kurdes. Mais les Irakiens, c'est pas ça. C'est-à-dire il y a des appartenances qui sont des appartenances religieuses ou ethniques. Il y a des appartenances tribales qui sont très importantes. Et il y avait des grandes confédérations tribales qui étaient à la fois sunnites et chiites, et pour qui l'ennemi, c'était ceux qui n'appartenaient pas à la tribu, pas les sunnites ou les chiites. Et il y a l'appartenance à l'Irak. C'est-à-dire, il y a un nationalisme irakien. Il faut rappeler que c'est un des premiers pays qui a nationalisé le pétrole. Il y a une fierté d'être irakien. Ça a été un grand pays du monde arabe. Tout ça a été complètement détruit par les Américains, qui fait que la possibilité de reconstruire un pouvoir central est extrêmement faible aujourd'hui. Parce qu'il n'y a pas d'accord entre les différentes forces politiques, il n'y a pas de projet politique. Et puis parce que je pense que la présence américaine est une présence qui empêche les forces politiques irakiennes de prendre leurs responsabilités et d'assumer. Il y a des gens qui disent « Ah, mais si les Américains s'en vont, il va y avoir la guerre civile. » Mais si ce n'est pas la guerre civile qu'on a connue depuis 5 ans, on se demande ce qu'on a connu en Irak. Il y a, vous savez, une leçon qui est très simple de ce qui se passe là-bas. C'est que on ne peut pas diriger un pays à la place de son peuple. C'est aussi simple que ça. Alors, on peut justifier, sans parler de... On peut toujours trouver des bonnes justifications humanitaires pour dire, regardez, on tue des gens, c'est pas possible de ne pas intervenir, etc. Mais quand l'intervention produit beaucoup plus de morts que la non-intervention, il faut s'interroger. Et puis, je veux dire, depuis les fondements du monde colonial, les peuples des anciennes colonies n'acceptent plus d'être dirigés par des étrangers. On peut penser que ça serait mieux que nous, entre guillemets, occidentaux, on est plus démocratique, on a des bonnes lois, on connaît l'état de droit, etc. Mais dans la réalité, on sait très bien que c'est impossible. Et ce à quoi se heurtent les Américains, c'est aussi ça. C'est-à-dire la volonté des Irakiens de ne pas être dirigés par des étrangers.
Des commentaires des uns et des autres sur le poids de l'Irak dans les élections américaines, par exemple ?
Non, je crois que Alain a dit l'essentiel. Il est vrai que dans la bataille actuelle, l'Irak n'est pas un sujet de discussion majeur, qu'on a vu d'ailleurs à mesure que la campagne se développait, que les interventions, y compris des deux candidats démocrates, portaient moins sur ce thème, alors qu'au début, Barack Obama privilégiait le fait que lui s'était opposé à l'invasion de l'Irak en 2003, contrairement à Hillary Clinton. Et il est certain qu'il y a maintenant ce sentiment de l'opinion américaine que les choses, entre guillemets, s'arrangent un peu en Irak, même si j'imagine qu'il doit être quand même très paradoxal pour les Américains de voir que l'un des résultats de cet arrangement en Irak, c'est que le président iranien vient de faire sa première visite à Bagdad. Ils doivent se dire vraiment avoir lancé une guerre contre l'Irak pour que le président iranien puisse se rendre à Bagdad, c'est une politique qui nous échappe.
Come out! Open the door! Get your hands up and come outside! Everybody in the house needs to come outside!
Out of here you go! Keep going!
How many Iraqis per gallon? Endless killing spree. How many kids can you kill? Send the lower class the bill so you can drive your kids to soccer practice in your SUV.
Hey! Right here.
Hey!
continue et on finit avec le diplôme de ce mois de mars avec Maurice Lemoine, avec un sujet qui n'est pas dans le diplôme de ce mois de mars d'ailleurs, Ingrid Betancourt. Alors la question est, quand ?
Bon, c'est évidemment la grande actualité sur l'Amérique latine qui a un côté exaspérant. Qui a un côté exaspérant, non pas parce que nous aurions de quelconque insensibilité par rapport à Ingrid Betancourt, mais parce que elle cache la réalité colombienne. Bon. On a eu un événement important ces derniers temps qui a été la mort de Raoul Reyes, qu'on considérait comme le numéro 2 des FARC, et qui était son principal négociateur, son ministre des Affaires étrangères.
El ejercicio de todas las formas de lucha de masas. Su inmenso amor por la causa de los oprimidos será un referente de lucha revolucionaria. Paz en su tumba. Contra la oligarquía por el pueblo, contra el imperialismo por la patria, somos FARC, Ejército del Pueblo. Atentamente, Raúl Reyes, Comisión Internacional, Montañas de Colombia, enero 24 de 2007.
Alors, la mort de Reyes en soi, je vais dire, n'a rien de... Et je ne veux pas paraître cynique, mais n'a rien de scandaleux. C'est-à-dire, pour un guérillero, la mort, c'est un accident du travail. Cela étant, les conditions dans lesquelles il a été tué, évidemment, posent problème. Parce qu'en fait, ça constitue, premièrement, un coup d'arrêt à la négociation qui était en cours pour la libération des prisonniers et des otages. Et, deuxième point, elle a lieu sur le territoire équatorien, au mépris des lois internationales. On ne peut pas, les lois internationales ne permettent pas de poursuivre ses ennemis dans n'importe quel coin du monde et de violer la souveraineté des États environnants. Pourquoi est-ce que la mort de Reyes interrompt les négociations qui étaient en train d'avancer, et en particulier grâce à la médiation du président Hugo Chavez, le Vénézuélien? Il faut d'ailleurs rappeler que Chavez n'est pas entré dans cette affaire parce qu'il voulait jouer le caïd du quartier, mais parce qu'une sénatrice colombienne, Queda Cordoba, qui appartient à un parti de droite, le Parti libéral, lui a demandé d'intervenir. Et puis ensuite, les familles des otages et prisonniers lui ont demandé d'intervenir. Pour la première fois depuis des années, on a eu une avancée, y compris une ouverture de la guérilla, puisque 6 otages ont été libérés inconditionnellement et d'une manière unilatérale. On était donc dans une voie positive. Bon. Raoul Reyes était le contact, ou l'un des contacts en tout cas, et le contact principal, puisque c'est lui que venaient voir les journalistes, c'est lui que venaient voir les émissaires français, suisses, espagnols, parce qu'il y a un certain nombre de pays qui sont impliqués. La mort de Reyes, évidemment, était un coup d'arrêt. Et là, évidemment, on déclenche une crise régionale, puisque Reyes est tué en territoire équatorien. Ce qui, évidemment, provoque immédiatement une réaction courroucée du président Correa.
Et Chavez aussi, puisqu'il y on a un risque de conflit.
Risque de conflit, non. Il y a eu une montée aux extrêmes. Le président Chavez a montré sa force pour pas avoir à s'en servir. Ça c'est mon interprétation. Je veux dire, en envoyant 10 bataillons sur la frontière. Cela étant, les services de renseignement vénézuéliens sont très préoccupés en ce moment, non pas par une invasion massive du Venezuela par la Colombie, ce qui n'aurait aucun sens, et ce qui, y compris d'un point de vue militaire, serait quasiment impossible, puisque à ce moment-là, la Colombie se dégarnirait à l'intérieur face à la guérilla, donc on est bon. Mais en même temps, je veux dire, la frontière colombo-vénézuélienne, qui fait 2300 km, est un lieu de passage des fameux paramilitaires qui sont théoriquement démobilisés. Or, je rappelle qu'il y a 5-4 ans, on a arrêté 80 paramilitaires colombiens à Caracas, dans la banlieue de Caracas, où ils devaient, vêtus d'uniformes de l'armée vénézuélienne, attaquer des installations militaires pour faire croire qu'il y avait à nouveau un coup d'État, une tentative de coup d'État au Venezuela. Les relations sont donc très très difficiles. Les relations avec l'Équateur sont en train de devenir difficiles. On pourrait se poser la question, pourquoi est-ce que d'un seul coup éclatent des problèmes entre Bogota et Quito, ou même Washington et Quito? Il y a une raison très très simple, c'est que le président Rafael Correa, qui est un président de gauche, avait annoncé lors de sa campagne électorale, et l'a confirmé depuis son arrivée au pouvoir, qu'en 2009, il fermera la base de Manta, qui est une base qui a été concédée à l'armée américaine, et d'où les États-Unis, donc on est donc en Équateur, d'où les États-Unis viennent en voie d'évolution sur la Colombie. Il y a donc maintenant un contentieux sérieux, une réelle raison pour Washington et pour Bogota de s'en prendre à Quito et de tenter d'affaiblir le président Correa en arguant de relations avec la guérilla, en arguant de complicité avec la guérilla, dans les documents qu'on a vu sortir, dont d'ailleurs aucun pour le moment n'est authentifié, de l'ordinateur de Raoul Reyes, entre parenthèses, il y a eu 20 morts, un campement détruit, l'ordinateur ressort intact, il y a même 3 ordinateurs, paraît-il. Alors un ordinateur, c'est pas impossible, j'ai eu l'occasion de rencontrer Raoul Reyes, effectivement, il avait toujours son ordinateur avec lui et il travaillait dessus, mais dans les documents qu'on a vu sortir, alors on a 300 millions de dollars donnés par Chavez au FARC, alors que, quand on connaît bien l'histoire du Venezuela et de Chavez, on sait qu'il a toujours été fermement opposé aux méthodes des FARC. Il l'a dit souvent publiquement. Il n'y a donc pas de connivence entre Chavez et les FARC. Et puis, on a sorti les liens du gouvernement équatorien avec les FARC, avec, en oubliant une chose, c'est qu'il y a eu vraisemblablement des contacts entre le gouvernement équatorien et les FARC, parce que là encore, le conflit colombien affecte directement l'Équateur. Il y a actuellement entre 300 000 et 500 000 Colombiens qui ont fui leur pays et qui sont réfugiés en Équateur. Il y a donc des problèmes sur la frontière et aucun gouvernement ne peut oublier ce qui se passe sur son front nord en ce qui concerne l'Équateur. Et puis, des contacts, bien sûr, puisqu'on est en pleine négociation. Il y a tout le monde négocie en ce moment avec les FARC. Donc, aussi bien le gouvernement de Chavez que le gouvernement équatorien que Nicolas Sarkozy.
C'est ça que j'attendais.
C'est bien que c'est ça que vous attendiez. Écoutez, sans Sarkozy, il n'y a rien à dire. À la limite.
Ah ben ça alors.
Non mais, je m'exprime. À la limite, si Sarkozy se bat pour faire libérer Ingrid Betancourt, je ne vais pas lui reprocher. Que ça soit opportuniste, j'en suis complètement persuadé. Que ce soit parfois contre-productif, c'est pas impossible, parce que je veux dire, on n'est pas dans une affaire de rodomontade. Je vais aller la chercher moi-même sur la frontière. Je veux dire, c'est une affaire beaucoup plus sérieuse, c'est une affaire politique. Mais en même temps, et je vais terminer là-dessus, en imaginant que le président Sarkozy ait réellement l'intention de faire quelque chose, son intérêt, l'intérêt d'Ingrid Betancourt, et l'intérêt des 40 autres otages. Parce que moi, ma crainte, c'est que si demain Ingrid Betancourt est libérée, nos médias qui sont passionnés par cette affaire vont complètement oublier les 39 autres. Et qu'on parlera plus de la Colombie. Et qu'on parlera plus d'eux. Les familles des otages colombiens le savent. Ils savent qu'Ingrid Betancourt a un traitement privilégié dans les médias. Et qu'en même temps, elle est un peu une chance pour eux, parce que grâce à elle, on parle de l'ensemble des prisonniers. Mais si Sarkozy veut réellement faire quelque chose, il faut qu'il fasse pression des deux côtés. Il faut qu'il fasse pression sur les FARC, bien sûr, mais aussi il faut qu'il fasse pression sur le gouvernement colombien, qui aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, est le principal obstacle à la libération des prisonniers et des otages.
Soutenu par George Bush, qui a fait une visite éclair surprise en Colombie.
Oui, la visite, elle est surprise, mais la politique de Bush, c'est jamais une surprise.
Et pof! Merci à tous. Merci à toute l'équipe du Monde Diplomatique. Alain Grèche, François Denor, Anne-Cécile Robert, Gérard Filoche, Serge Halimi et Maurice Lemoine qui décortiquaient la situation en Colombie, Équateur et Venezuela. Merci à tous. Ces informations sont disponibles. Cette émission, vous pouvez la réécouter plus exactement sur le site de France Inter à la rubrique émission là-bas si j'y suis. Vous pouvez également la réécouter sur là-bas.org, là-bas.org. Et puis ne manquez pas les rencontres autour de Chomsky et compagnie dont j'ai parlé en début d'émission avec Normand Baillargeon du 13 au 28 mars à travers l'Hexagone. Donc vous pouvez voir les dates et les lieux sur là-bas.org, là-bas.org, vous saurez tout. 3 extraits donc du film en cours, en finition quand même, Chomsky et compagnie, avec des réactions de Normand et des analyses de Normand Baillargeon et Olivier Azam, ou moi-même serons à certaines de ces soirées. On vous précisera tout ça à la technique aujourd'hui. Rémi Quincet et Michel Bézikian, Yann Chouquet et Koyen Guyen ont réalisé cette émission modeste et géniale, assistée de Charlotte Perry, qui a la charge aussi du répondeur, dont le numéro est le 01 56 40 37 37 01 56 40 37 37. Et puis pour ce qui concerne les repères de la base du Spi, vous nous écrivez, vous envoyez des mails en disant ah mais alors moi j'habite à tel endroit et je voudrais savoir s'il y a un repère dans le coin. Ça non plus c'est pas difficile. À nouveau, vous allez sur là-bas.org, là-bas.org, et vous avez la liste des 80 et quelques repères à travers toute la France. Voilà, dans votre coin, dans votre campagne, dans votre ville, dans votre quartier, et il y a peut-être un repère où vous pouvez aller assister à une réunion, une rencontre pour bavarder en bonne compagnie. Réclame.